Bonjour, nous sommes sur CFM avec le Cercle de Lecture de Confluence. C'est une association créée en 1990 par Maurice Petit, Guy Roumagnac et Bernard Marlier. Elle organise des manifestations et des actions littéraires et artistiques en direction d'un large public. La manifestation la plus importante de l'association est le festival Lettres d'automne, qui aura lieu cette année du 20 novembre au 3 décembre et dont l'écrivain Laurent Mauvignier sera l'invité principal. Nous allons échanger aujourd'hui avec
Jeannette, bonjour.
Aline, bonjour.
Jacques, bonjour.
Jean, bonjour.
Autour du roman d'Antoine Joplin, Quelques jours dans la vie de Thomas Cusard, paru en 2017 aux éditions La Fosse aux Ours, qui est une maison d'édition lyonnaise. Antoine Joplin est né à Châteauroux en 1962. Son parcours professionnel est éclectique. Après des études de commerce et de mathématiques, il travaille comme cogniticien dans une société de conseil. Il commence à écrire en 2001 et vit actuellement dans l'Isère, où il est directeur artistique du Festival de spectacles vivants de l'Arpenteur. Parmi ses œuvres, citons entre autres Radeau, Le Héron de Guernica, La Nuit tombée, L'Incendie, en collaboration avec Hubert Mengarelli, et Une forêt d'arbres creux. Il a aussi publié en 2012 un recueil de poésie, Debout sur la terre, et il écrit des œuvres courtes, puisque celle qui nous intéresse aujourd'hui est la plus longue, avec 207 pages. Jeannette, tu voudrais bien nous donner le sujet du roman?
Alors, Thomas Cusard, qui est dans le titre, c'est un cheminot qui travaille dans une petite gare de Tchéquie, qui s'appelle Trutov. Et ce cheminot, qui est le cheminot de base, enfin qui n'a pas une culture ni une éducation particulière, est quand même quelqu'un de fin, de rêveur, d'artiste. Son occupation préférée, c'est de photographier des arbres, et en particulier des écorces d'arbres. Le livre tire son intérêt du fait que les hasards de la vie font que Thomas Cusard rencontre Václav Havel, le futur président de la République tchèque, au moment où, avec une troupe de théâtre dans laquelle il est à la fois acteur, metteur en scène et auteur, il essaye d'apporter la culture au peuple. Et le livre va nous raconter un petit peu, sur une quinzaine d'années environ, les rencontres de Thomas Cusard et Václav Havel et l'évolution qui va se faire tant sur le plan politique que sur le plan du personnage de Cusard. Et j'ai envie de vous lire un tout petit passage qui se trouve au tout début du livre, qui est un petit peu la métaphore justement de ce travail qui va être le travail politique, mais qui est aussi le travail des cheminots. « Ça a été un sacré boulot, » dit Thomas. « Putain ! Si on savait ce que ça va être quand on commence, on le commencerait jamais, pas vrai ?»« Putain !» dit encore Gustave. Tous les deux sont assis sur le marchepied d'un wagon de marchandises. Gustave fume une cigarette. Ses mains sont noires de graisse, comme celles de Thomas. Tous les deux, ils ont passé la journée à travailler sur ce train, à en atteler les wagons, une bonne quarantaine. « Un boulot de chien !» souffle Gustave. « Je suis vidé. » Et je crois que le boulot de chien, ça va être aussi celui de Václav Havel.
Quelques mots sur Václav Havel. Il est né en 1936 à Prague, dans une famille fortunée et cultivée d'entrepreneurs du bâtiment. Avec le régime communiste qui s'empare du pouvoir en 1948, il ne peut étudier comme il le souhaite. En 1961, il entre au théâtre de la Balustrade comme accessoiriste, et pour cette troupe, il écrit des pièces dans la lignée du théâtre de l'absurde. Il écrit aussi pour des revues artistiques et devient président du club des écrivains indépendants. après l'écrasement du printemps de Prague en 1968, il est écarté de tout ce qui est culturel. Il entre alors en dissidence. Il est l'un des promoteurs de la charte 77 et il est mis en prison à plusieurs reprises. Il y passera en tout 5 ans. En novembre 1989, il devient la principale figure de la révolution de velours. Et quelques semaines plus tard, il est élu président de la Tchécoslovaquie. Il démissionne de ses fonctions en 1992. Après la partition de la Tchécoslovaquie, il est élu président de la République tchèque jusqu'en 2003. Il meurt en décembre 2011 dans sa maison de campagne, dont il est beaucoup question dans le livre, à Hradec.
Hradec.
D'accord.
On peut peut-être ajouter, dire tout de suite que Milan Kundera a dit que la vie de, il a qualifié la vie de Václav Havel d'œuvre d'art.
Hier, lors du cercle de lecture, nous avons évoqué d'autres œuvres d'Antoine Choplin, Le Héron de Guernica, Une forêt d'arbres creux, L'incendie, qui ont toutes en commun de mettre en scène un personnage simple, discret, que rien ne prédispose à participer à des événements historiques. Qui ont en commun aussi de ménager une lueur d'espoir au milieu des difficultés et qui présentent une même écriture simple, dépouillée et fluide. Et dans un article du Monde, daté du 2 juin 2017, Antoine Choplin évoque l'histoire de son livre. Il a été sensibilisé à 17 ans à l'histoire de la Tchécoslovaquie en voyant une pièce de théâtre de Václav Havel. Et depuis longtemps, dans sa vie de romancier, il voulait écrire sur la Tchéquie et sur Havel. Et deux rencontres vont lui servir de déclencheur. D'abord, dans le cadre du Festival de l'Arpenteur, il travaille avec un dramaturge tchèque, compagnon de route de Havel. Dans les années 80, et celui-ci lui fait rencontrer, au début des années 2000, dans le nord de la Tchécoslovaquie, Bohan Holomíček, écrivain et photographe. Celui-ci a vécu dans un milieu simple, éloigné des questions politiques et du monde artistique. C'est lui qui réalisera la photo prise au balcon du palais présidentiel lors de l'élection de Havel à la présidence de la République. Et c'est lui qui inspirera le Thomas Cusard du roman. Voilà. Pour les présentations, j'ai beaucoup parlé. Lançons-nous maintenant dans l'œuvre.
On pourrait peut-être parler de l'originalité de l'écriture de ce livre. Quand on tourne les pages, ce qui tout de suite saisit, c'est l'importance des blancs, le fait que très souvent on va à la ligne et que finalement le lecteur doit d'une certaine façon compléter ce qui lui est suggéré très souvent. Il me semble que c'est un livre qui vraiment implique très fortement le lecteur.
C'est une écriture qui est assez décapée, on pourrait dire, dans lequel il n'y a pas d'adverbe, il y a très peu d'adjectifs aussi. C'est presque par moment une espèce de constat, une espèce de photographie de l'instantané, du réel, de ce qui se passe et autres. C'est pas du tout une écriture avec des effets. Il n'y a pas non plus d'analyse psychologique profonde et lourde. Enfin, je veux dire, c'est au lecteur, comme vous le disiez, de faire sa propre, de comprendre un peu la psychologie des personnages.
Hier, au cercle de lecture, cette écriture suivait un petit peu l'esprit de Thomas Cusard, qui est quelqu'un qui réfléchit lentement. Et donc cette écriture donne les faits les uns après les autres, sans forcément les lier tout de suite, parce que lui-même a un peu de mal met du temps à lier les choses et à comprendre ses motivations.
Oui, moi c'était exactement ce que je voulais dire, c'est que c'était un petit peu une écriture à l'image du personnage. Et alors, je vais saisir l'occasion pour expliquer, ce qu'a dit l'auteur lui-même de ces personnages. Parce qu'on l'interroge souvent, est-ce que ce sont des personnages réels? Puisque tous ces romans se situent, les romans que l'on connaît, se situent dans une période historique précise, ou un contexte social précis. Et alors, l'auteur dit ceci. « J'aime confronter au monde, au contexte des personnes singulières. » En prise directe avec leur propre humanité. La sorte de naïveté qui est souvent la leur confine à la fois à une très grande simplicité et à une forme de génie qui les amène tout autant à des formes d'émerveillement sur le monde qu'à des formes aiguës de révolte. Autrement dit, qui leur laisse la chance d'un regard pur sur les choses et les gens, dont l'écriture serait un petit peu le reflet de cela. Et puisque j'ai évoqué les sources documentaires que l'on peut reconnaître dans les romans, j'ajoute une précision, c'est qu'il se défend d'être un documentariste, même s'il fait des recherches, et parce qu'il reproche à trop de documentaires d'étouffer les forces fictionnelles. La documentation, dit-il, est indispensable pour éviter le contresens à partir du moment où on en revendique une contextualisation, mais je me garde d'aller au-delà. Donc, son personnage n'a pas existé. Václav Havel, évidemment, oui. Ce qui permet au personnage d'être confronté à une réalité historique, mais son personnage n'a pas existé et il a des caractéristiques qu'il a lui-même définies et que l'on a retrouvées dans le livre.
Oui, j'ajoute, c'est une citation tirée de l'article dont je vous ai parlé. Il parle de Thomas comme un de ces hommes d'origine modeste qui, pour des raisons que j'aime essayer d'identifier, mais qui conservent toujours leur part de mystère, accèdent à leur mesure à une friction avec l'histoire. C'est vrai que Thomas est un gars très simple. C'est un solitaire, il est taiseux, il aime la nature, il aime les arbres, il aime les oiseaux, il en connaît d'ailleurs énormément et beaucoup sont cités, et il aime les trains.
Et je repensais à l'aspect documentaire dont tu parlais. Cet aspect documentaire, il va aussi assez loin dans la vie de Václav Havel. En particulier, il fait allusion pendant la période où il est épié, constamment poursuivi par des la DAC, enfin je ne sais pas si notre tchèque de service acceptera le mot, il va quand même se réjouir dans sa maison de campagne. C'est une maison de campagne dans laquelle il va mourir. Il rassemble des amis et ils écoutent de la musique.
Voilà, et nous allons écouter un extrait des Plastic People, un groupe qui a eu un procès dans les années 70-80 et que Václav Havel a soutenu.
Thank you.
Donc vous êtes toujours sur CFM et Jean va nous dire quelques mots de la musique que vous venez d'entendre.
Oui, donc pourquoi ce choix de musique? C'est parce que dans le cercle des amis de Václav Havel, on aimait écouter, faire venir ces musiciens parce que ça rompait totalement avec une espèce de ronron de musique plus ou moins folklorique qu'essayait de développer officiellement le régime. Et ces musiciens étaient vraiment considérés comme des anticonformistes absolus. Et d'ailleurs, ils ont été poursuivis, pour certains, mis en prison, etc. Mais cette volonté de choquer, de provoquer, ça faisait partie de ce mouvement et de ces gens qui étaient autour de Václav Havel. Havel lui-même était très admirateur du Velvet Underground et des Beatles aussi, hein, de tout. Ça paraissait, ce qui permettait d'être dans un autre monde que ce monde tellement conformiste et écrasant.
Gris.
Et donc ça paraissait, comme il est dit dans le livre, une musique bourrée d'énergie et tonique qui permettait de rompre avec la routine.
Et que dit la chanson, là?
Chanson fait l'éloge d'un alcool très fort qui donne donc justement cette énergie.
Que les musiciens ont bu, sans doute.
Et que les musiciens ont peut-être bu.
Oui, sans doute.
Mais de toute façon, on écoutait cette musique en ne négligeant pas les boissons fortes.
Aline, est-ce que tu veux nous parler des motivations de Thomas Cusard? Comment ça s'engage-t-il aux côtés de Václav Havel?
Alors, c'est assez près du, assez au début du roman. Il y a une pièce de théâtre qui doit être jouée près de la gare où vivent ces cheminots, où travaille Thomas Cusard. Mais cette pièce de théâtre va être un véritable bide. Les acteurs ne pourront pas aller à la fin d'ailleurs. Et Václav Havel, à un moment donné, interroge Thomas qui se trouve là, qu'il ne connaît pas bien sûr à ce moment-là, et Thomas ne connaît pas non plus Václav Havel. Et Václav Havel commence par la question suivante: tu es cheminot, n'est-ce pas? Et il l'interroge sur ce qu'il a pensé de la pièce, qui a donc été un bide pour tout le monde, sauf peut-être pour Thomas, qui lui a été quelque part intéressé. Václav Havel lui demande: toi, t'as pensé que ça n'était de la foutaise? Puisque les autres ont pensé que c'était de la foutaise. Non, je n'ai pas pensé, répond Thomas. Et Václav lui demande pourquoi? Et Thomas répond ceci: peut-être c'est un peu à cause des bancs. Les bancs? Oui, les bancs. Je t'ai regardé quand tu les essuyais avant le spectacle. Tu faisais ça tout seul, avec cette sorte d'application. Je t'ai vu les essuyer une fois, puis tu as recommencé depuis le début, parce que la pluie continuait à tomber. Et que, quand tu avais fini avec le dernier rang, le premier rang avait repris la flotte, et forcément, il fallait refaire le boulot. Et moi, ce que je voyais surtout, c'était le soin que mettait un gars à essuyer les bancs où on allait venir poser nos culs de cheminots. Václav Havel s'interroge encore: après les bancs, la pièce, je veux dire, tu as trouvé ça comment? Ils parlent à voix basse, comme pour garder la conversation au milieu d'eux. C'était curieux. Curieux, plutôt. Et Thomas explique son ressenti. Tu as beau savoir que c'est du théâtre, tu finis quand même par ne plus y penser. Pendant un moment, je crois bien que j'y ai plus pensé du tout. Et ce que j'ai vu, c'était un petit monde en plus qui se retrouvait au milieu de l'autre, celui dans lequel on est pour de bon, avec le dépôt, la gare, tout le reste. Et à ce moment-là, dans ma tête, ce monde était aussi vrai que l'autre, pour ainsi dire. C'est drôle. Et même si je comprenais pas bien tout ce qui s'y passait, ça change rien. On aurait dit qu'il était vrai quand même. Et voilà, c'est à partir de cet échange où finalement ces deux personnages si étrangers l'un à l'autre se sont rencontrés, que le livre se poursuivra.
Et il faut noter qu'au moment où la conversation a lieu, Thomas ne sait pas encore que c'est Vaclav Havel qui a écrit la pièce. Et je crois que c'est encore plus fort à la fin, il se dit mince quand même ce gars, c'est un intellectuel et il sait si bien et avec tant de soin essuyer les bancs.
Oui. Là, je trouve vraiment que la scène est bien vue parce que elle est tout à fait représentative de l'attitude de Havel. Havel, c'est quelqu'un qui était capable de s'adapter à toutes les situations, de jouer tous les rôles, même les rôles. Enfin, pour lui, il n'y avait pas de rôle humble et de rôle noble. Et c'est ce qui a fait sa force. Quand il a été en prison, il s'est totalement adapté à la situation de la prison. Quand on lui a demandé, quand on l'a empêché de faire des études et qu'il est devenu ouvrier, il a fait son travail sans se poser de problèmes et avec une grande modestie, on peut dire.
Tu disais, Jean, que...
Il y avait d'ailleurs un paradoxe, c'est que, bon, comme il était issu d'une famille bourgeoise, il n'avait pas le droit de faire des études supérieures. Donc, il est devenu ouvrier. Mais en tant qu'ouvrier, il avait droit à des cours du soir. Et donc, il a pu, comme ça, faire ses études, parce qu'un ouvrier, il a le droit de prendre des cours du soir pour se former. C'était ce que tu voulais dire?
C'est ce que je voulais dire, oui. Ça m'avait intéressé quand tu avais dit ça, parce que toi, tu as vécu en Tchécoslovaquie.
Oui. Et il est très représentatif de cette faculté qu'ont eu les gens dans ce pays de faire face à l'adversité, à l'oppression, au malheur ou à la dictature.
Oui, moi j'ai été surprise lorsqu'on lui enlève toutes ses archives, de voir dans sa maison, quand on lui vide sa maison de toutes ses archives qui sont précieuses, enfin de tous ses textes, ouais. et il réagit d'une façon relativement calme.
Oui, parce que c'est la meilleure façon de réagir. C'était pas la peine de réagir. Enfin, il proteste un tout petit peu, mais pour la forme.
Oui. Il le dit, il y a quand même une confiance dans l'avenir. Là, il dit, il y aura d'autres conférences, d'autres livres, d'autres paroles. Vous ne croyez pas? On lui enlève tout, mais il sait que ça continuera quand même.
Je pense qu'il comptait aussi sur une certaine mauvaise conscience des gens qui faisaient ce travail de police et d'observation, etc., et de filature. Il y avait des gens qui faisaient ça parce qu'il fallait le faire, mais c'était ça. Ils le faisaient avec mauvaise conscience, je pense aussi. Et comptaient là-dessus. Mm-hmm. Il y a d'ailleurs un passage qui est amusant, enfin, où finalement, les gens qui sont observés, surveillés, prennent pitié du flic qui est dans sa voiture et qui a l'air de s'embêter toute la journée à ne rien faire, à attendre.
Qu'ils sortent pour pouvoir les coincer.
Oui. Donc ça, il me semble que c'est bien vu dans le livre.
Oui. Et une citation peut-être, il rassure Thomas, je crois, au moment où ils sont arrêtés, amenés au commissariat. « T'en fais pas, on a fait comme on a pu. C'est juste qu'on se débrouille comme on peut avec ce qu'on a à faire. Et si ça ne réussit pas une première fois, on recommencera et ça finira par réussir. »
Voilà, il faut dire qu'on est dans une société où... On est schizophrène. Enfin, il faut mentir pour s'en sortir. Il y a un moment où il faut donner le change, mais on n'en pense pas moins. Donc on est un peu coupé en deux. On sait quel rôle on doit jouer dans telle situation, et puis quel rôle on doit jouer quand on est vraiment dans sa propre vérité. Et ça, c'est un héritage qui est ancien dans ce pays, qui est très ancien.
Ce que j'ai trouvé de très bien aussi rendu dans le livre, c'est le fait que on nous parle jamais de la grande histoire avec un grand H. Il y a toujours des petits faits, mais ces petits faits permettent tout à fait de comprendre, etc., à quel moment historique. Si on connaît l'histoire de la Tchécoslovaquie, on voit tout de suite en quelle année on est, à peu près. Si on ne la connaît pas, on se rend compte qu'on est avec un régime totalitaire qui est là, dans lequel effectivement il y a la police qui surveille les gens, etc., qui va faire des perquisitions chez eux et autres. On voit tout ça et on voit très bien dans quel régime on est, sans que on nous fasse de grandes déclarations, de grands paragraphes sur la situation exacte de ça. Je trouve que c'est très bien fait avec tous ces gens qui sont là, qui sont d'origine modeste et qui sont pris justement dans ces petits faits, qui sont pris dans la grande histoire et qui vont avoir un destin dans lequel ils vont tout de même essayer ensuite de rester dignes, de rester debout.
Alors il y a ceux qui restent debout et ceux qui se couchent quand même.
Oui.
Parce que donc Thomas Cusard va rester debout, aidé par ce groupe dans lequel il entre, mais il est amoureux au début du livre d'une jeune femme qui, elle, peut-être inconsciemment, d'ailleurs, va accepter pour monter en grade ou oui. A-t-elle eu le choix, on ne sait pas, de faire un rapport sur un de ses camarades. Et il semblerait que ce rapport soit très défavorable puisque cet homme va se suicider. Oui. Donc à partir de là, sa vie va être complètement biaisée. Enfin, elle va entrer dans la culpabilité et en même temps s'enfoncer de plus en plus dans la délation puisque elle va aller jusqu'à dénoncer Thomas, avec qui elle a pourtant une relation amoureuse assez vrai.
Oui, mais pour relayer ce que tu dis et ce que disait Jacques, ces faits concrets qui nous révèlent à nous, effectivement, la période historique, ils apparaissent vraiment petit à petit et très progressivement. C'est-à-dire, les personnages ne comprennent pas tout de suite qu'il y a ce poids, et cette peur. Donc, c'est petit à petit qu'ils vont prendre conscience et, la jeune femme, au contraire, n'a pas pris conscience assez vite. Et elle se laisse, elle se laisse embarquer dans la délation. Et moi, je l'ai conçue comme ça. C'est parce qu'elle n'a pas compris.
Oui. Et en même temps, à la fin, elle comprend puisque, oui, puisque lorsque il va falloir signer, Thomas revient la voir pour lui demander de signer la fameuse charte dont on parlait tout à l'heure, elle ne va pas le faire. Elle ne va pas le faire parce que elle ne veut pas avoir l'air sur le tard de rattraper le passé. Oui.
Mais à ce moment-là, on voit qu'elle est sur une pente vraiment descendante.
Oui. Hein,
elle donne l'impression d'être vraiment en train de se détruire.
Oui. Oui. Même physiquement, parce que il est rare d'ailleurs qu'ils décrivent physiquement les personnages, mais là,
il va
la décrire parce qu'il a besoin de montrer qu'elle elle est en pleine décrépitude.
Oui. On n'a pas parlé de la composition du livre, c'est-à-dire que le livre ne suit pas un ordre chronologique. Hein. Est-ce que tu peux en parler, Françoise?
Non, simplement, j'ai compté qu'il y avait 9 chapitres. Et que effectivement on commençait par la fin, c'est-à-dire avec la photographie de Thomas sur le balcon de la présidence, et que on revient à la fin au dernier chapitre lorsque Thomas rencontre le président et lui offre sa lampe de cheminot. Voilà. Et entre-temps, c'est un retour en arrière. Et alors j'ai noté aussi que très souvent, il n'y a pas de description de personnage, mais il y a beaucoup d'indications de saisons. On sait à quelle saison se passe l'action, printemps, automne, novembre, janvier, été. Et il y a en même temps une très belle évocation de la campagne tchécoslovaque. C'est tout ce que je voulais dire.
Les chapitres, pour certains, portent des titres d'œuvres de Havel lui-même. Il y a, par exemple, Pétition ou L'argot désolato. Ce que je trouve très touchant aussi et très fort, c'est que le dernier chapitre s'intitule Lumière.
Ah oui.
Et la dernière image, c'est une image de lumière aussi, avec cette lampe du cheminot qui va être posée sur le bureau du président. Je trouve cette fin très belle.
Je saisis l'occasion pour parler. Non, mais parce que ça va dans le même sens, pour parler du train de Kudova. Alors, on a dit que Thomas Cusard, depuis son enfance, est fasciné par les trains. Et il les fait passer puisqu'il est garde-barrière, et il adore regarder les trains. Et il va dire à Vaclav Havel, dans le courant du roman. Il y a un train que j'aime bien. Alors, je vais commencer avant. Le minerai emplissant les wagons produit des scintillements légers sous la clarté de la lune. Thomas pense à Vaclav. C'est qu'ils viennent de se quitter. Mais peut-être aussi que quelque chose le relie à ces lueurs en route au milieu de la nuit. Et il y a un train que j'aime bien parce qu'il me fait penser à toi. C'est le train de Kudova. C'est un train de nuit qui trace sa route vers l'ouest. Donc c'est un peu ce train de nuit qui illumine la nuit. C'est un petit peu aussi la métaphore de Vaclav Havel qui va délivrer peut-être
la lumière dans la nuit.
Voilà, la lumière dans la nuit.
Oui. Alors, pardon.
C'est sur les trains encore. Bon, cet intérêt porté au train lui est venu. C'est un souvenir qui date de son grand-père. Donc ça, c'est intéressant aussi. Et juste pour compléter, il évoque dans son passé avec son père. Dans la mémoire de Thomas, le passage d'un train est resté comme une longue rafale vivifiante qui emplissait les poumons et asséchait la bouche. Son grand-père, debout derrière lui, le tenait aux épaules. L'intensité des sensations épousait avec perfection celle du vacarme produit, naissant avec le surgissement du train au loin, s'accroissant avec son approche, culminant à son passage et s'évanouissant avec l'éloignement, puis l'effacement de ses feux arrière. Cette disparition douce fascinait Thomas. Elle signait avec tant d'élégance la fin de l'enchantement. Il était rendu à la forêt silencieuse.
Alors à propos des trains, on peut proposer aux auditeurs de, s'ils peuvent, un film qui s'intitule Train étroitement surveillé et qui est justement un film dans lequel il y a des personnages qui ressemblent pour certains aux personnages de notre livre.
Voilà, et je voudrais parler aussi peut-être pour ce solitaire qu'est Thomas de la chaleur que lui apporte le groupe des dissidents. Il dit à un moment, hein, je fais partie d'une communauté, d'une équipe, et je crois qu'en fait il trouve des relations vraies, alors que dans tout son comment dire parcours professionnel, sauf avec peut-être Gustave, il n'avait trouvé que des gens qui ne l'intéressait pas beaucoup.
Oui, et d'autant que même l'histoire d'amour que vous évoquiez tout à l'heure, c'est pas une histoire d'amour complète, très facile. Hein. Bien sûr, ils s'aiment, mais il y a toujours comme un empêchement. Bon, donc la vraie relation vient peut-être effectivement après dans ce groupe.
Et alors qu'il a sous les yeux l'image au contraire d'un couple qui lui paraît le couple idéal, c'est-à-dire Václav et Olga, sa femme, qui lui semble vraiment être exemplaire.
Fusionnel.
Oui, voilà. Oui. Et cette Olga, d'ailleurs, elle joue un rôle important dans la vie de Václav Havel, et on peut renvoyer aux lettres qu'il lui a écrites quand il était en prison. Les lettres à Olga, c'est des lettres qui sont très très belles, dans lesquelles c'est lui qui finalement réconforte celle qui est dehors, qui n'est pas emprisonné, il est plus fort.
Et qui lui disent qu'il souhaite qu'elle lui écrive.
Voilà. Oui. Il y a dans le livre des extraits, pratiquement, je pense, tel quel de ses lettres.
Oui, oui. Il lui dit, il faut que tu sois heureuse, ce sera mon plus beau réconfort en prison.
Oui, et quand tu viendras me voir, il faut que tu sois très belle.
Cet échange touche à sa fin et on n'a pas beaucoup parlé, parce qu'on ne peut pas tout dire, de la place de la culture dans ce livre. Avec le personnage de Václav Havel et le théâtre. Donc, je lirai simplement une phrase de Václav Havel qu'il dit à Thomas. « Tu vois, Thomas, j'ai la conviction que la culture peut être un levier, comme un outil de savoir et de plus grande conscience sur le monde. »
Nous vous invitons à lire ce roman qui nous a beaucoup plu. C'est donc « Quelques jours dans la vie de Thomas Cusard » de Antoine Chauplin aux éditions « La fosse aux ours ». Et le prochain cercle de lecture, qui est donc ouvert à tous, se réunira le 11 septembre à 10h à la Petite Comédie. Nous échangerons sur un livre de Bohumil Hrabal, H-R-A-B-A-L, un auteur tchèque dont les écrits ont été interdits par le régime communiste. Cet ouvrage s'intitule « Une trop bruyante solitude » et vous le trouverez aux éditions Pavillon Poche. Voilà, pour terminer, quelques informations sur les activités de Confluence. Le 19 juillet, dans le cadre du festival Partir en livre, Confluence organise une journée intitulée Place au livre, avec des ateliers d'écriture et d'illustration, un pique-nique littéraire, une balade contée, la confection d'une fresque collective, une séance de dédicaces et des lectures. En septembre, Maurice Petit et François-Henri Soulier présenteront, dans le cadre des Embarcadères, un spectacle intitulé « Pour de rire » sur des textes de Fernand Reynaud et de Raymond Devos. Il sera présenté à Puy-Cornet le 9 septembre à 20h30 et à Montèche le 16 septembre à 15h. Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site de Confluence, www.confluence.org. Nous vous souhaitons de bonnes vacances. Au revoir.